savez, depuis quelques années, nous allons chaque année dans un camp de famille en Bretagne. Il ne pleut jamais en Bretagne comme ici. Et à l'église de Saint-Lunaire en Bretagne, eh bien, il y a la minute des enfants. Alors, Gigi, elle a eu l'originale. Ceux qui sont venus à la réunion de prière à la maison, je leur ai un petit peu raconté. Je vais un petit peu raconter aussi, j'ai un petit peu étoffé. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses de ce que nous avons entendu. Voilà. Donc, la personne qui s'occupe de la minute de l'enfant, c'était beaucoup plus court que ce que je vais faire. Hein. Il s'appelle Jonathan Hanley. Il a peut-être 40-50 ans. Il est marié à Amanda et tous les deux ils sont engagés dans le service du Seigneur. Ils ont deux grands garçons. Ils ont travaillé pendant quelques années en Pakistan parmi les réfugiés afghans. Quand ils sont revenus en France, ils ont travaillé pendant plusieurs années, peut-être qu'ils sont encore impliqués dans les groupes bibliques universitaires. Il a aussi été pasteur pendant plusieurs années. Et pendant à peu près 15 ans, avec un mandat, ils se sont investis parmi les malades du sida. Et ils ont travaillé dans la communauté homosexuelle. Et ils nous ont, dans une réunion particulière, partagé beaucoup de choses à ce sujet-là. Donc, Jonathan Hanley a écrit aussi plusieurs petits livres. Moi, je n'en ai acheté que un, dont le titre est « Quand lire la Bible m'ennuie ». Ce n'est pas un ouvrage théologique, ce sont des choses pratiques. Il a écrit aussi d'autres petits livres de ce gabarit-là. Et il a aussi écrit, entre autres, un livre qui est intitulé « Sexe et désir, fruits défendus ou cadeaux de Dieu ». Ce qui a valu à l'un de ses fils d'être approché à l'école par un camarade qui lui a dit « Tu sais, ton père il a écrit un livre sur le sexe, hein ?» Et le fils lui a répondu « Ah, et toi, tu peux me dire sur quel site tu flirtais pour savoir comment tu surfais pour savoir que mon père a écrit sur un livre sur le sexe ?» Comme toute réponse, il a entendu un grognement, il a tourné les talons et il est parti. Voilà pour la présentation de Jonathan Hanley qui anime la minute des enfants à l'église de Saint-Lunaire. Alors ce dimanche-là, qu'est-ce qu'il a laissé? Il est venu avec une boîte à eau. Et il nous a parlé de la boîte à eau et de Jésus. Alors il a dit comme ça que, d'abord il a fait venir les enfants devant, hein. Il leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec Jésus. Ben, on peut faire un gâteau, on peut faire une omelette, on peut faire toutes sortes de préparations. Mais avant de faire quoi que ce soit avec les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il faut les casser. Alors, il a dit, eh ben, vous savez, la boîte à eau, ça peut nous faire penser à une église. À une église où on est assis un à côté de l'autre, on est assis dans la rangée de devant, ou bien dans la rangée de derrière. Il y a une couverte qui peut être le toit. Il y a des côtés, ça peut faire les murs de l'église. Il y a le bas, ça peut être le plancher de l'église. Alors, on voit que c'est tous des œufs de poule. Mais il y a quand même des différences de couleur. Elle est plus foncée, il y a des moins foncés et il y a des tout clairs. Et celui-là, ce n'est plus un œuf parce qu'on l'a mangé, mais je vous l'ai apporté parce qu'il était verdâtre. Et moi, je mange aussi avec les yeux. Et c'est le dernier qui est resté dans la boîte. Vous demandez comment un œuf verdâtre pouvait être bon. Je préfère comme ça. Je ne veux pas que nous aussi, que ce soit pour la viande ou pour le pain, on aime bien un pain plutôt doré qu'un pain ou un morceau de viande anémique. Hein. Ah. Bon. Mais ça peut ressembler à une église, mais dans la boîte à œufs ou dans l'église, il se passe des choses qui ne se passeront pas dans la boîte à œufs. Parce que dans la boîte à œufs, on n'arrive jamais de dire « Oh, celui-là, je ne peux pas, je ne veux pas m'asseoir à côté de lui, il a une histoire de place, je ne veux pas, hein, je ne veux pas m'asseoir à côté de lui. En plus, regarde comme il est sale. Hein. » Ce n'est pas une plume que j'ai rajoutée, c'était comme ça. C'était comme ça dans la boîte. Hein. Il y a des œufs moins forts que ça. Hein. Et dans une boîte à œufs, ça n'arrivera jamais non plus qu'un œuf dit. Monsieur, il a pris ma place. Depuis 40 ans, je m'assieds là. Donc, ça, il y a des ressemblances, mais. Il y a des différences aussi. Bon, alors, assez parlé sur les œufs. Maintenant, j'ai l'heure de préparer le dessert quand même. Hein. Mmh. Alors, Jonathan a pris un plat, il l'a mis par terre, il a pris un œuf, je ne vais pas faire comme il est. Il n'y a pas de plat, on pourrait croire aussi que je gaspille. Mais il a tout de suite rassuré que les œufs seraient récupérés et qu'ils serviraient à faire le dessert. Bon, il a lâché l'œuf comme ça et évidemment, ploc. Puis il a pris un deuxième œuf, celui qu'on me prend barré. Il a pris comme ça de plus haut et de nouveau ploc. Alors il a pris un œuf et là, il est déjà mort, il a mis comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je laisse tomber? Et il a lancé. Même pas de très haut, mais il a lancé. Ça fait rire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un fou. Un fou. Et pourtant, il était dans la même boîte avec les autres. Mais c'était un fou. Alors, la Bible, toute la Bible, du début à la fin, le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul, ils ont aussi parlé de ce qui est vrai et de ce qui est faux. On ne va pas lire un texte comme d'habitude, un texte de départ, on fera quand même plusieurs lectures. Mais par exemple, l'apôtre Paul dit que dans la deuxième aux Corinthiens, je vais vous donner des références si vous voulez, et il dit qu'il y a de faux apôtres qui se déguisent en apôtres du Christ. 2 Corinthiens 11, verset 13. Et dans la première aux Corinthiens, il parle aussi de personnes de l'assemblée qui se nomment frères, mais qui en réalité ne le sont pas. Dans l'Épître aux Galates, par exemple, chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul dit qu'il s'était introduit dans l'église de Galates de faux frères. Et tout au long de la Bible, eh bien, nous lisons qu'il y avait de faux prophètes et qu'il y a eu aussi de faux dieux. Et le Seigneur Jésus nous avertit qu'il s'élèvera aussi de de faux Christ qui diffuseront un faux message ou de faux messages. Ça, c'est quand même quelque chose de solennel. Et vous rappelez cette parole terrible de Jésus quand il a dit qu'il y aura un jour où devant lui, les gens diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait même beaucoup de miracles en ton nom, chassé des démons ?» Et le Seigneur lui dira « Je ne vous ai jamais connu. Vous étiez des fous. Vous étiez avec les autres. Mais vous, je ne vous connais pas. » Et il leur dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous avez déjà entendu, comme moi, ce que Jacques m'a dit quelquefois, et qui fait peur, et qui est solennel. Il a dit ceci: la religion évangélique, ça existe. Mais ça ne fait pas de nous de nouveau nés. C'est vrai que nous, nous n'avons pas, quelque part, un homme bien habillé, avec un chapeau spécial, avec un manche, qui dicte ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. C'est vrai aussi que nous n'avons pas une dame à qui nous adressons des prières. C'est vrai que nous disons que pour nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai ici aussi que dans les milieux évangéliques, nous n'avons pas à souffrir de scandales d'abus sexuels ou de pédophilie. Mais ça ne donne pas le droit à recevoir le diplôme d'un bon chrétien. Ça n'existe pas d'ailleurs. Hein. Et encore moins, ça ne donne pas le droit à obtenir le passeport pour la vie éternelle. Il y a quelques années, nous passions quelques jours en hiver à la montagne. On y faisait du ski, mais nous, nous ne skions pas. On fait juste de la luge, on s'amuse bien aussi. La plupart des campeurs étaient des jeunes. Moi, j'étais dans les plus âgés. Il y avait beaucoup de neige. Et tout le monde avait quelque chose à raconter sur son trajet, de ce qui s'était passé dans la neige. Et parmi les personnes plus âgées, il y avait un couple dont le mari était chauffeur routier. Et il avait voyagé un peu partout en Europe, à toutes les saisons. Et il les avait amusés un jour en racontant comment les chauffeurs scandinaves, en Norvège, Suède et tout ça, font sur la glace et sur la neige. Bon, probablement à cause de l'âge, je me suis rapproché d'eux. Et un jour, je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous vous êtes convertis? Il y a longtemps, comment? J'étais stupéfait. Et je crois que je n'ai pas su cacher mon étonnement. Ah, nous, ni baptisés, ni convertis. Mais ce qui m'avait stupéfié, c'est qu'il chantait avec tout le monde, il levait les mains comme ça, il faisait des gestes, et on chantait surtout des chants de Jésus éternel. Et ça m'avait vraiment surpris. Parce que si je n'avais pas parlé avec eux, j'aurais cru que c'était un couple converti et qui marchait avec le Seigneur. Mais nous, ni baptisés, ni convertis. Une bonne ambiance. Alors, on va avec leurs enfants. Et leurs enfants étaient là, avec leurs petits-enfants. Donc, c'était des grands-parents qui accompagnaient leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils venaient pour l'ambiance. Il faut dire que c'est quand même bien qu'ils étaient dans une église qui ne les avait pas fait jouir, où ils aimaient bien aller, où ils se sentaient bien, c'était le bon côté des choses, mais ils vivaient peut-être aussi dans une fausse sécurité. Alors, donc ici, je ne suis pas en train de donner mon appréciation sur la gestuelle qu'on peut rencontrer dans l'Église, hein. Mais je vais juste dire que j'ai été trompé par les apparences, et que je ne suis certainement pas le seul qui a été trompé, et je veux dire aussi que ce couple-là n'avait pas l'intention de tromper qui que ce soit au sujet de leur foi, au sujet de leur relation avec le Seigneur. L'apôtre Paul a dit clairement que dans les derniers temps, eh bien, il y aurait des gens qui auraient l'apparence de la piété, qui auraient les formes extérieures de la piété, mais qui renieraient ce qui fait la force de la piété. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait la force de l'Évangile? Le pasteur Charles Ritt, que je ne connais pas, mais voilà, il a écrit quelques mots au sujet de son beau-père, qui n'était pas chrétien quand il l'a connu, mais qui s'est converti plus tard. Et voici ce qu'il écrit à propos d'un épisode de la vie de son beau-père. Mon beau-père avait fondé et développé une petite entreprise artisanale. Son cœur fut touché par l'Évangile et il s'appliqua à vivre fidèlement selon les enseignements de Christ. Qu'est-ce que c'est qui donne la force? C'est de vivre fidèlement selon les enseignements de Christ. Une de ses résolutions fut de ne jamais agir contrairement à sa conscience. Dieu a béni son travail et son témoignage, et il était réputé pour son honnêteté. Durant les années de la dernière guerre, la marchandise se faisait de plus en plus rare. On manquait de matières premières et d'ouvriers qualifiés, si bien qu'il devenait de plus en plus difficile de satisfaire les commandes de ses clients. Beaucoup d'entre eux s'approvisionnaient au marché noir, à des prix souvent prohibitifs. Mais le patron et son fils, envers et contre tout, voulaient rester honnêtes. Lorsqu'un client s'approvisionnait dans leur entreprise, il facturait cette marchandise au montant normal du tarif, sans jamais le majorer. Par contre, beaucoup de fournisseurs, attirés par les profits faciles du marché noir devenu courant, gonflaient abusivement leur prix. À la fin de la guerre, la prospérité revenant petit à petit, ils constatèrent que leurs clients, qu'ils avaient servi honnêtement, leur restaient fidèles, alors qu'ils tournaient le dos aux fournisseurs qui les avaient escroqués durant la période de pénurie. Et leur entreprise connut un développement encourageant. Plusieurs clients devinrent même des amis ouverts à l'Évangile et aux valeurs chrétiennes. Ce qui donne de la force à l'Évangile, c'est de vivre fidèlement selon l'enseignement du Seigneur. Alors on va un peu revenir à la boîte à outils. Je vous ai lancé un blanc, un bras et encore un blanc. Alors, quand on a parlé de ce sujet-là, à la maison, j'avais cet œuf-ci. Et je l'avais lancé aussi, mais je ne le ferai pas, parce que ça, c'est un vrai. C'est vrai, il n'y a pas de danger. Mais quand il était à la maison, il y a quelques mois d'ici, et quand on faisait ça, on entendait floc-floc. était sans devant un micro, vous auriez entendu Flop Flop. Mais, et encore, j'avais écrit Flop Flop, hein, pour ne pas me tromper. Et maintenant, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Ça veut dire quoi?
Mais c'est cher.
Ça veut dire qu'il a complètement séché. Quand il faisait floc floc, il y avait encore quelque chose dedans. On n'aurait peut-être pas voulu le manger, mais il y avait encore quelque chose dedans. Maintenant, il y a sûrement encore quelque chose dedans. Il est devenu tout léger. Même si je vous le donnais, ben, vous sentiriez, c'est presque une coquille vide. Hein. Alors, comment est-ce que cet œuf-là en est arrivé là pour, c'était un bon œuf, mais maintenant il est tout sec. Il ne fait même plus fort. Comment est-il passé d'un bon œuf de poule élevé en plein air, parce que ça va, c'est des œufs de poule élevés en plein air. Comment est-il passé du statut d'œuf élevé, il vient obtenir à son statut d'œuf sec. Lui, comme tous les œufs, il pouvait faire partie du repas d'une personne, pour ne pas exagérer pour la famille avec un œuf, mais pouvait faire partie d'un repas, ou bien mieux, puisqu'il avait été élevé en plein air, donner naissance à un poussin, qui serait devenu poule ou coq. Donc cet œuf-là, comme tous les œufs, il contenait une promesse de vie, et le voilà maintenant sec, inutile. Et c'est pour tout le monde une perte totale, pour la poule, pour l'éleveur et pour l'acheteur. Comment en est-il arrivé là? C'est pas sans faute. C'est nous qui l'avons oublié. Et il est devenu inutilisable, parce que nous l'avons tout simplement mis de côté. Alors devenir sec, c'est ce qui menace tout chrétien qui se contente de rester assis dans son alvéole, dans sa rangée, derrière la rangée de devant ou dans la rangée de derrière, avec un toit au-dessus de lui, des murs autour et un fond de ses pieds. Comme je vous l'ai dit, l'œuf ne porte aucune responsabilité dans le fait d'être devenu sec. Par contre, en ce qui concerne le chrétien, s'il devient sec, c'est sa décision, c'est son choix. J'ai déjà eu l'occasion de dire plusieurs fois qu'il y a une période dans ma vie où c'était devenu vraiment sec. Jusqu'au jour où j'en prenne conscience et que j'ai repris contact avec la parole de Dieu et en même temps avec le Seigneur. Amen. Pourtant, dans l'Église, les occasions et les possibilités de service ne manque pas. Il y a beaucoup de travail, différent, varié, mais on ne bouge pas. Et peut-être qu'une bonne possibilité, une bonne occasion pour commencer à s'investir, ce serait par exemple de laver les tasses, après la tasse de café. Dans l'Église, il y a aussi beaucoup d'occasions et de possibilités de grandir spirituellement, de se développer spirituellement, mais on ne bouge pas. Par la grâce de Dieu, nous avons un berger qui prépare des études bibliques exceptionnelles, qui affermissent la foi de tous les participants. À cet effet, il prépare des feuilles d'études avec des questions précises, avec les lignes qu'il faut pour répondre, avec les références qui permettent de trouver les réponses. Tous les sujets qu'il traite sont importants et se apporte à la vie pratique. Tout ce qui est étudié le mercredi permet d'être préservé de toutes les faussetés qui circulent et dont nous avons parlé, les faux prophètes, les faux dieux, les faux Christ, le faux enseignement. Alors Dieu merci pour plus ou moins la dizaine de personnes qui suivent ces études. Et je sais, c'est vrai que tout le monde ne saurait pas y assister ni tout le temps. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aujourd'hui et maintenant décider que à la rentrée, vous allez profiter avec les autres de cet enseignement que le Seigneur met à la disposition de son Église pour qu'elle grandisse et qu'elle s'affermisse. Et vous pouvez aussi aujourd'hui et maintenant décider qu'à la rentrée, vous vous joindrez à un groupe de prière proche de votre domicile ou bien plus éloigné, et je peux vous assurer que vous y serez béni. Et si vous y allez, vous pouvez assurer que vous ferez œuvre utile en priant et que vous deviendrez et que vous ferez équipe avec le Seigneur, que vous ferez équipe avec les serviteurs de Dieu qui sont sur le terrain. Vous partagerez les fardeaux des frères et sœurs. Vous prendrez aussi conscience des nombreux besoins de l'Église. Quand on voit la feuille de prière, on se rend compte de la quantité des besoins. Et vous combattrez ainsi avec le Seigneur ensemble. Alors, je vous ai dit que devenir sec, c'est ce qui menace le chrétien qui se contente de rester confortablement calé dans son alvéole. Et peut-être que quelqu'un se sent sec. C'est pour ça que l'apôtre Paul, encore dans la deuxième aux Corinthiens, dit ceci, « Examinez-vous vous-même. » Et il s'adresse à des chrétiens. « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. » 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Mais si vous vous sentez sec, il y a de l'espoir. Et nous allons faire maintenant notre première lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37. C'est un texte saisissant qui nous parle d'une sécheresse extrême et d'un retour à la vie. C'est un texte que je pense devrait être assez bien connu. C'est un texte qui annonce le rétablissement du peuple d'Israël, qui annonce le retour du peuple d'Israël dans la terre promise. À partir du verset 1, nous lisons ceci. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient trop nombreux, qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux, pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit. Et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a couverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et si vous lisez la suite, vous verrez que ce texte annonce vraiment avec une clarté stupéfiante le retour du peuple d'Israël en Palestine. Alors, si quelqu'un se sentait, moi je ne saurais pas le faire revivre comme je ne saurais pas rendre la vie à leur sec. Peut-être que la science pourrait faire quelque chose, mais pour le Seigneur ce n'est pas un problème. Avec des ossements desséchés, dispersés, il a fait un peuple vivant. Il faut seulement accepter d'être vivifié, de recevoir la vie par celui qui est l'auteur de la vie. Alors, nous avons parlé des faux œufs, nous avons parlé des vrais œufs qui étaient secs. Il y a encore d'autres œufs, hein. Et je n'en ai pas ici, et il vaut mieux. Parce qu'il y a aussi des œufs pourris. Et il paraît que ça pue. Ça ne sent pas mauvais, mais il paraît que ça pue. Il paraît que c'est le H2S. Mais pour nous, qui sommes dans la boîte, par l'église, par le bâtiment, mais membre du peuple de Dieu. Né de nouveau, le projet de Dieu est tout à fait différent. Ce n'est pas d'être un œuf pourri. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 2,15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Voilà à quoi nous sommes appelés. La bonne odeur de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul affirme. Et je peux dire, je veux dire, plaise à Dieu que ce soit une réalité pour moi et pour chacun de vous ici. En tout cas, c'est ce que Christ a été dans sa vie et dans sa mort. Il a été un parfum agréable. Et que notre vie soit comme nous le chantons à la fin d'un cantique, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. En tout cas, notre prière, c'est que le Seigneur nous préserve d'être une odeur qui fait fuir. Que ce soit personnellement ou en église. Alors dans les vrais œufs, il y a encore d'autres œufs. Il y a les œufs entiers, il y a les œufs cassés. Et vous avez déjà vu des œufs cassés dans les rayons du magasin ou du supermarché. Et vous en avez peut-être ramené chez vous, si vous n'avez pas ouvert la boîte, et vérifié avant. En tout cas, nous sommes arrivés. Mais personne sauf si c'est la dernière fois et qu'on a vraiment besoin d'eux, personne ne prendra une boîte avec des yeux cassés. Parce que ça colle, ça plaque, c'est gluant. Alors, l'œuf cassé, la boîte avec l'œuf cassé, on s'en détourne, on la laisse de côté. Encore une fois, notre pasteur nous a dit à plusieurs reprises à propos de l'Église que l'Église peut ressembler à un grand hôpital où il y a des accidentés de toutes sortes. Des accidentés de l'amour ou du travail ou des loisirs ou bien des accidentés de la vie et aussi des naufragés de la vie. Alors face à ces accidentés, quelle sera notre attitude? Est-ce que notre attitude sera celle du bon samaritain qui a croisé la route de ce voyageur qui avait été attaqué, malmené, maltraité et laissé pour mort au bord du chemin? Est-ce que nous nous arrêterons près de lui? Est-ce que nous le prendrons en charge? Ou bien est-ce que nous serons comme le prêtre, sacrificateur ou comme le lévite qui détourne le regard, qui passe outre, qui fait un détour? Ou bien est-ce que nous refilerons l'œuf cassé, accidenté de la vie au pasteur? Ou bien au conseil, pour que ce soit le médiécile, le sang? Ou bien le pu, ou bien d'autres saletés. Ou bien est-ce que nous aurons envers cet accidenté de la vie un cœur rempli de compassion comme le Seigneur en arrière? Donc ça, c'est les vrais œufs qui sont cassés accidentellement. Il y a encore les autres œufs, ceux qui restent, qu'il faut casser volontairement. Si vous vous rappelez la question du début que Jonathan a posée aux enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à préparer? Casser les œufs. Il faut les casser volontairement. Et il faut, pour bien faire, les casser dans un bon récipient, en paquet. On sait bien que, nous avons tous déjà entendu, et peut-être qu'on l'a dit nous-mêmes, on ne peut pas faire de même sans casser les autres. Et c'est vrai, mais il vaut mieux les casser dans la foi, sinon tout est terminé. Alors nous pouvons avoir les meilleurs jus du monde, les plus bio du monde, mais s'ils ne sont pas cassés, eh bien, ils deviendront comme Choc-Choc, qui est devenu silencieux. Et rien ni personne n'en aura jamais rien. On peut être très doué. On peut être le plus doué au monde, dans n'importe quel domaine. Mais si nous servons le Seigneur avec un cœur qui n'est pas brisé, ça n'apportera rien non plus. Et je peux même vous dire que ça peut être très grave et très sérieux pour nous. Parce que nous en concevrons de l'orgueil. Et ce don que nous avons reçu, ce talent que nous avons reçu, pourra causer notre propre perte. Parce que au lieu d'attirer, au lieu de diriger les regards vers Jésus, eh bien, nous attirerons les regards sur nous. Quand les Israélites avaient péché, ils en prenaient conscience, ils manifestaient leur repentance en déchirant leurs vêtements. Et un jour, le prophète Joël dans le chapitre 2 au verset 13, leur a dit ceci. C'est pas vos vêtements qu'il faut déchirer, ce sont vos cœurs. Ça ne change rien si vous déchirez vos vêtements. L'extérieur, ça ne sert à rien, c'est le cœur qu'il faut déchirer. Et nous allons encore lire vous savez bien ce que je veux dire. Nous allons encore lire quelques mots dans le psaume 51. C'est la prière de repentance du roi David, au psaume 51, le verset 19. David dit, des sacrifices agréables, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Le plus difficile dans la vie, c'est le cœur brisé. Le plus difficile dans la vie, c'est renoncer à être ce que je veux être, pour être ce que Dieu veut que je sois. C'est de renoncer à aller où je veux, pour aller là où Dieu veut que j'aille. On va encore lire à la fin de l'évangile de Jean, dans le dernier chapitre, chapitre 21. Quand l'apôtre Pierre a été restauré par le Seigneur, après son triple reniement, au verset 18, le Seigneur dit à Pierre ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Dans certaines versions, il est écrit tes vêtements. Mais ici, c'est écrit ta ceinture. Tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Le plus difficile, c'est d'abandonner ce que je veux pour accepter ce que Dieu veut pour moi. Le plus difficile, c'est d'accepter de changer nos plans, nos projets, pour accepter le plan du Seigneur. Alors nous avons vu que il y avait deux sortes de vies. Il y avait les faux, avec lesquels on ne saura jamais rien préparer, qui ne nourriront jamais rien ni personne et qui ne feront, qui nous tromperont et dont nous serons déçus. Il y a alors les vrais œufs qui peuvent être secs ou pourris ou accidentés. Et il y a enfin ceux qui sont consacrés, qui sont volontairement brisés, 100% dédiés au Seigneur, parce qu'ils vivent fidèlement selon l'enseignement du Seigneur. Alors, il ne suffit pas d'être dans la boîte pour être sauvé. Il faut un cœur nouveau, il faut un cœur brisé pour appartenir au Seigneur.